à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour Paul. Et si les logements servaient à habiter, tous, dans de bonnes conditions de confort et ne servaient qu'à cela ? Pas à gagner de l'argent en spéculant sur leur valeur, au mépris des besoins des villes, de loger tous ceux qui les font fonctionner. Et si les prix des logements et les loyers étaient en corrélation avec les revenus, libérant du pouvoir d'achat pour mieux vivre ? Et si les terrains, enjeu de toutes les surenchères, devenaient un bien commun au service de la collectivité pour le bien-être de tous ? Ces mots sont extraits du livre d'Isabelle Ray-Lefebvre, « Halte à la spéculation sur nos logements », paru aux éditions Rue de l'Échiquier en janvier 2024. Un ouvrage récent de David Rothman, paru chez Apogée, semble prolonger ce débat en suggérant un changement radical mais simple. Faire la ville sans les promoteurs immobiliers. Parmi les pistes qu'il est possible d'explorer pour changer profondément le système de production du logement, un principe de bon sens consisterait ainsi à lier chaque soutien financier public à la contrepartie d'un actif durable. Une politique du logement sans promoteur immobilier n'est donc pas seulement possible, mais elle est souhaitable. En ces temps de crise, la vraie urgence est d'engager cette redirection du marché du logement et de sa production au bénéfice de ses habitants, qu'ils soient locataires, propriétaires, occupants et éventuellement coopérateurs ou bénéficiaires d'un bail réel solidaire, et ainsi de servir l'égalité sociale et la soutenabilité de notre habitat terrestre. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau donc Isabelle Ray-Lefebvre et David Rothman. Isabelle, donc vous êtes journaliste spécialisée dans ces questions de logement. David, vous êtes politiste, consultant. Vous avez différentes sociétés. Vous êtes aussi un contributeur de Métropolitique. Nous saluons les responsables du site Métropolitique, métropolitique.eu, site de vulgarisation sur la recherche urbaine. David, vous dressez dans le livre le constat d'une ville dans laquelle les acteurs financiers ont pris une place prépondérante depuis quelques décennies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est cette financiarisation de l'immobilier?
Oui, en fait, la financiarisation, c'est d'abord un processus. C'est le processus par lequel on va lier les marchés financiers et l'urbanisme. En fait, c'est une épargne, donc une épargne qui va être placée dans la ville. Et pour placer cette épargne, on va essayer de construire ou d'acheter là où c'est rentable. Parfois, c'est là où il y a des besoins et parfois, ça ne l'est pas. Le promoteur, là-dedans, il joue un rôle important. C'est un des rouages qui va permettre, en fait, avec sa connaissance de la complexité de la ville, de transformer globalement des bâtiments en un actif financier dans le fichier Excel en fait qu'utilisent les acteurs financiers. Et le Pinel ou la défiscalisation.
Le Pinel, qu'est-ce que c'est ?
Le Pinel, c'est un dispositif de défiscalisation qui permet à des investisseurs d'acheter des logements et donc d'en déduire une partie de leurs revenus de leur feuille d'imposition.
Un investisseur, ça peut être chacun d'entre nous.
Exactement, c'est une sorte de financiarisation pour petits riches, mais ça a exactement la même modalité, c'est-à-dire qu'on va transformer un logement qui sert normalement d'abord à l'habitat en un actif financier qui sert à faire fructifier son épargne.
Alors, on comprend que donc les acteurs financiers maîtrisent, possèdent et donc orientent la production d'une grande part de la ville. Mais donc, qu'est-ce que ça produit dans l'espace ? Comment est-ce qu'on voit les effets de cette financiarisation ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un très grand mot pour. On pourrait avoir l'impression que c'est un très grand mot pour expliquer, pour désigner finalement quelque chose d'assez simple, mais qu'est-ce que ça change dans la ville ?
En fait, ça a des aspects très concrets et visibles dans la ville. Le premier, c'est la focalisation de l'investissement. C'est-à-dire que l'investisseur, il veut un produit simple, et donc il va d'abord chercher la localisation. Ce qui fait que certaines villes, en fait, deviennent, pour reprendre les mots de Pierre Veltz, des coffres-forts pour les super-riches. C'est le cas à Paris. En fait, une bonne partie du marché de l'immobilier en fait sert d'abord à placer de l'argent. Ça a d'autres effets. Ça fait qu'on a des formes urbaines qui vont s'homogénéiser. Sur les promoteurs, on parle souvent de deux cages d'escalier, 40 logements, parce que c'est ce qui est le plus rentable à construire et à exploiter.
C'est une sorte de rationalité formelle.
Exactement. En fait, on va construire par rapport aux besoins de l'investisseur plus que par rapport aux besoins de l'habitant. Ça va faire des logements plus petits, parce qu'un logement plus petit, en fait, est plus rentable en termes locatifs. Et puis, ça va surtout avoir un effet sur les hausses de prix de l'immobilier. On investit là où on espère avoir une plus-value, et en investissant, on enclenche une hausse des prix. Et celle-là, elle va exclure les couches populaires des centres-villes.
Et alors je me tourne vers Isabelle Rey-Lefebvre. Quelle est la différence entre cette financiarisation dont nous parlait David Rothman et la spéculation immobilière que vous dénoncez dans votre livre « Halte à la spéculation sur nos logements » ?
Ces deux notions qui ont beaucoup à voir l'une avec l'autre, mais la spéculation, moi je la définis très simplement, vous achetez à un prix et vous revendez plus cher. Donc tout le monde est spéculateur, enfin tous les propriétaires, on est tous un petit peu des spéculateurs en herbe, si j'ose dire. La financiarisation, ça fait intervenir plus les techniques financières, de crédit, de levée de fonds, mais ça s'appuie sur la spéculation, c'est-à-dire sur la plus-value latente.
Pourquoi est-ce qu'on en veut tant à la spéculation immobilière alors que dans l'imaginaire collectif, finalement, acheter un bien à tel prix pour le revendre avec une petite plus-value, c'est la base du commerce, par exemple, c'est la base de beaucoup d'échanges humains. Pourquoi est-ce que c'est particulier de spéculer sur les logements? Peut-être on pourrait revenir là-dessus.
En France, on n'a pas vu de grands fonds d'investissement racheter en masse des logements et des appartements. Donc nous, on a une propriété plus émiettée. Vous dites des petits riches, c'est tout à fait exact. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de concentration de la propriété qui était rampante. C'est vrai que jusque dans les années 2000-2010, l'aspiration à la propriété, et donc peut-être de revendre un peu, était assez répandue, était presque généralisée. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu différent du propriétaire particulier, c'est que c'est des gens qui ont une démarche de dire « je vais investir pour la plus-value possible ». Et donc c'est dit très bien David, c'est en fait tout un mécanisme qui fait que c'est pas son propre logement, mais c'est le logement pour les autres, et donc on n'a pas du tout le même raisonnement et on construit pas les mêmes choses.
Mais dans votre ouvrage, vous parlez de Madrid avec l'exemple de cette acquisition massive par un fonds d'investissement, et quelque part on a l'impression que ça relègue les promoteurs immobiliers à des petits joueurs, puisque deux cages d'escalier, 40 logements, c'est-à-dire la production du neuf, elle est minime et elle est très peu efficace. Donc c'est presque comme s'ils occupaient l'espace médiatique en disant « nous sommes indispensables », mais la réalité, elle se passe ailleurs, elle est beaucoup plus rampante, puisqu'on voit arriver ces fonds d'investissement qui, tout d'un coup, vraiment accélèrent le produit logement.
En fait, les promoteurs, ce sont des prestataires, c'est des gens qui construisent et qui revendent. Alors, ce que dit David dans son livre est tout à fait juste, c'est qu'ils ont un poids politique, un poids d'influence qui est sans rapport avec leur poids économique réel, parce que effectivement, ils sont organisés, ils font du lobbying, etc. Ça, c'est vrai. Mais en fait, ce qui compte, c'est la propriété, c'est-à-dire ceux qui détiennent. Alors, en France, on a encore une propriété émiettée, quoique, et l'INSEE nous l'a révélé il y a 2-3 ans, l'INSEE a repéré ce phénomène de multipropriétaires, c'est-à-dire des gens qui accumulent les logements. Alors, c'est pas des. Elle a dit qu'il y avait 1 million de ménages, soit 3,5% des ménages, qui détenaient plus de 5 logements. Alors, c'est pas Blackstone et ses 20 000 logements, c'est même pas Paris Habitat qui a 120 000 logements. C'est pour ça que c'est un phénomène assez difficile à percevoir, cette espèce de concentration de la propriété qui se fait à bas bruit dans les villes. Mais elle aboutit au même résultat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui accumulent les logements, qui cherchent à en tirer le maximum de profit en termes de loyer, en termes de revente et de plus-value, et ceux qui n'arrivent pas à se loger. L'écart s'accroît.
Mais ça on va en parler un peu plus avant, mais j'aimerais bien que David réponde sur, justement, je partage ce que vous dites sur les promoteurs qui font du lobbying. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en même temps une espèce de petit contre-pouvoir par rapport à ces grands fonds d'investissement qui peuvent, eux, fonctionner, je dirais, dans d'autres grandes villes européennes, comme vous le décrivez dans votre livre, David?
Alors, ils font effectivement du lobbying. Il ne faut pas exagérer sur leur poids. C'est un poids qui est relatif. On les entend beaucoup, mais ils n'ont pas forcément beaucoup d'effet. Je dis dans mon livre, chien qui aboie ne mord pas. Et c'est un peu vrai pour ce que fait le lobbying de la promotion immobilière. Néanmoins, et pour revenir sur la question de la spéculation, en fait, le problème de la spéculation, c'est qu'elle fait augmenter les prix. Le capitalisme, il a une promesse, c'est de réduire les prix. Il y a plein de prix de plein de denrées qui ont réduit. Il a beaucoup de défauts, mais il permet ça. Il ne le permet pas sur l'immobilier, pour plusieurs raisons. Et sur l'immobilier, il va faire augmenter les prix. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y ait plus que des gens riches qui peuvent acheter des logements. Donc, ça explique cette logique de multipropriétaire. Le système continue à tenir parce qu'on a des inégalités qui augmentent et parce que des personnes riches peuvent acheter. Mais, normalement, les promoteurs, ils visent le sixième décile sur... ce qu'ils arrivent à vendre. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus.
Donc le sixième décile, ça veut dire les 40% les plus riches de la population. Sixième décile est au-dessus, c'est ça?
Oui, oui, exactement.
Pardon.
Et aujourd'hui, donc, ils arrivent plus à vendre. Ils sont sur le huitième ou neuvième décile. Ça tient parce que les inégalités augmentent. Donc, on a ce phénomène de multipropriétaires. Mais ça a un énorme coût pour la société, cet immobilier qui est en haussier. Et ce coût, il existe pour les entreprises qui n'arrivent pas à loger leurs salariés, pour les personnes qui n'arrivent pas à se loger, le manque de mobilité générale dans le parc résidentiel. Tout ça, ça a un coût immense. Et ce coût, en fait, il sert à enrichir une certaine partie de la population ou certains acteurs financiers.
On a un peu l'impression que l'État et la société, parce que l'État c'est aussi une émanation de la société, a perdu un jeu qui consistait à produire de la richesse, qui était de la richesse immobilière, et donc à avoir une forme d'intérêt partagé, collectif, à ce que l'immobilier vaille de plus en plus d'argent. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à la fin de ce jeu, parce qu'on se retrouve un peu bloqué. Et vous montrez dans votre livre, David Rothman, que ce phénomène, justement, c'est le phénomène de néolibéralisation, ou de spéculation, de financiarisation, c'est pas du tout un désengagement de l'État, c'est pas du tout une privatisation, mais au contraire, l'État est en grande partie responsable. Il régule, il oriente, il finance très fortement la production de logements par les acteurs privés de l'immobilier. Et vous citez par exemple ce paradoxe qui fait que les aides fiscales font que le logement privé coûte plus que le logement social. Ça, c'est complètement inattendu. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je reproche pas aux promoteurs de faire leur métier. Je reproche à l'État d'avoir créé des règles du jeu qui nous permettent pas de produire du logement abordable. Et c'est très bien expliqué, Julie Pollard, dans son livre qui s'appelle « L'État, le promoteur et le maire », l'explique bien. Pour moi, je pense qu'il y a une sorte de paresse intellectuelle et effectivement une idéologie néolibérale qui fait croire que le privé fera forcément mieux que le public. Comment ça s'est traduit à partir des années 80, même à partir de 77, avec le remplacement des aides à la pierre par les aides à la personne? Donc on va aider des personnes à investir, donc on va créer ces dispositifs de défiscalisation. Ceux-là, ils vont permettre en fait de solvabiliser une demande, celle des investisseurs, pour réussir à vendre cher des logements. Et effectivement, c'est le rapport d'Allier, hein, qui est un rapport sénatorial, qui explique que finalement le Pinel coûte plus cher que le logement social. Enfin, plus exactement, lui, il dit que le logement social, ça coûte à peu près 32 000 euros à l'État en subvention.
Par logement.
Mmh. Et un Pinel, ça coûte, selon la Cour des comptes, 50 000 euros à l'État. C'est-à-dire que l'État, il préfère payer plus pour une solution plus court terme. Et en fait, l'État réfléchit dans une logique de court terme, parce que le Pinel, pendant 9 ans, vous avez des loyers modérés, après ça redevient complètement privé. Le logement social, vous avez un actif durable qui va aider les bailleurs à s'autofinancer et à construire encore plus de logements sociaux. Et juste un dernier point, en fait, l'État aussi, il en profite. L'État est un grand propriétaire foncier. L'État touche les droits de mutation. Et du coup, en fait, il faut repenser toutes ces incitations. C'est-à-dire qu'à plein de niveaux du système, on a des incitations à faire du logement cher.
Isabelle? Oui, alors... En fait, les promoteurs, ils construisent du neuf. Et la construction, c'est très peu par rapport au marché immobilier, au marché de l'ancien. Le marché de l'ancien, c'est vraiment un marché de masse. On a quasiment 900 000 transactions par an. C'est ça qui compte.
Oui, on estime que le neuf, ça représente 2% de la ville chaque année.
Même pas. Mmh. Même pas. Si on construit 500 000 logements les bonnes années, alors qu'on a 900 000 transactions dans l'ancien. Donc, en fait, le neuf ne pèse pas sur le marché immobilier. Et c'est d'ailleurs beaucoup de penseurs néolibéraux disent pour faire baisser les prix, il faut construire plus. Non, et ça tu le dis très bien aussi dans ton livre, construire ça fait augmenter les prix parce que ça n'a pas la masse suffisante pour peser sur le marché immobilier. Par contre, ça exacerbe la concurrence sur les terrains. Et donc, en fait, construire plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire.
Oui, parce que pourtant, on manque de logements. Enfin, ça paraît
la solution pour faire baisser les prix, ce n'est pas de construire plus.
Et alors, est-ce que ce modèle néolibéral et spéculatif, on le retrouve partout en Europe? Vous, Isabelle Rey-Lefebvre, qui avez exploré plein de contextes étrangers.
Pas qu'en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, partout en Europe, en effet. Et même la Commission européenne s'est aperçue que l'accès au logement était un problème, alors qu'elle avait combattu le logement social dans les années 2004-2005. Aujourd'hui, elle enjoint aux États membres d'investir dans le logement abordable et elle doit, à la mi-décembre d'ailleurs, proposer un plan avec des milliards à la clé, je pense que ce sera quand même des prêts à long terme, un plan pour rendre le logement abordable en Europe.
On va revenir là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une première pause musicale en écoutant Sea Song de Robert Wyatt. Et on se retrouve juste après sur le plateau de Cause Commune. C'est ainsi va la ville.
Every time
De retour sur Cause Commune, vous êtes toujours dans Ainsi va la ville, nous sommes toujours avec Isabelle Ray-Lefèvre et David Rothman en compagnie de Dominique Alba.
Oui, on a terminé la première partie avec ce chiffre des 900 000 logements qui sont échangés chaque année, je dirais, qui sont beaucoup, un chiffre beaucoup plus important que la construction neuve. On a dressé le constat inquiétant d'une production de logements qui alimente la spéculation et les inégalités, avec des prix qui s'envolent, au déficit du confort, du pouvoir d'achat, ou tout simplement des besoins des habitants. Christian Topalov, il parlait du logement comme une marchandise impossible, tant il était à la fois un objet hautement mercantile et politique. Et pourtant, vous défendez l'un comme l'autre l'idée qu'un autre marché du logement est possible. Alors peut-être déjà Isabelle Ray-Lefèvre, avec les exemples à Vienne, où on a cette ville qu'on cite toujours en exemple avec ce chiffre des 60%, qui est d'ailleurs repris par beaucoup d'élus dans ces temps de pré-campagne électorale ou de campagne électorale. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors Vienne, c'est une politique menée par les socialistes depuis 1920, donc plus de 100 ans, à l'exception de la période fasciste puis nazie, entre 35 et 45. Alors, ça repose sur deux piliers, sur leur politique, sur du logement municipal, social. La ville de Vienne possède 22% du parc viennois. Et d'ailleurs, c'est un parc dont ils sont très fiers. C'est écrit en rouge sur les façades. Cet immeuble appartient à la ville de Vienne, a été construit.
Et puis, il me semble, avec des architectures aussi fabuleuses, Hundertwasser.
Oui, alors il y a ces architectures-là. C'est les architectures de 1920, très inventives, qui sont toujours là, qui sont bien entretenus et ils n'ont jamais vendu ni même démoli un seul logement. L'autre pilier, ce sont les coopératives qui ont été fondées au 19e siècle, souvent par des corporations, les cheminots, etc. Ce sont des sociétés à but non lucratif ou à lucrativité limitée qui travaillent très étroitement avec la ville de Vienne et ils produisent du logement qui appartiennent aux coopérateurs et aux loyers contrôlés. Et ces coopératives, elles ont 20% du logement viennois, donc 42% de ces deux parcs logent 60% des Viennois. Voilà.
Et il y a aussi 33% de logements à loyer plafonné.
Oui, alors les loyers plafonnés, c'est des loyers anciens, un peu notre loi de 48 qui existe. Donc en fait, la ville de Vienne, c'est une ville de locataires avec des loyers plafonnés. Et grosso modo, on ne dépasse jamais 10 euros le mètre carré par mois de surface habitable. Donc 100 mètres carrés, 1000 euros. Donc le logement est très accessible, mais est locatif. Un point sur les coopératives, quand vous rentrez dans la coopérative, vous payez une contribution. Et cette contribution, elle vous est remboursée si vous partez moins 1% par année d'occupation. Et je trouve le raisonnement économique très intéressant. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de spéculation sur les parts sociales, mais en plus, on considère que l'immeuble, c'est une valeur d'usage qui se dévalorise en fonction de leur usage. Et donc, c'est normal. Et tout le monde trouve normal de récupérer sa contribution. Alors, la contribution, c'est 20, 30 000 euros. C'est pas non plus des sommes folles. De récupérer ça avec moins 1%. Je trouve le raisonnement économique très intéressant.
Et donc, à Vienne, pas de vacances?
Pas de vacances, non. Et une grande mixité sociale, puisque dans ces deux parcs, ça reflète, surtout le parc coopératif, si vous divisez la population en quatre, vous avez 25% des revenus. Dans le parc municipal, il y a un petit peu moins de revenus du quart le plus aisé. Il n'y a que 9-10% du quart le plus aisé, mais il y a une grande mixité sociale. Et ça, c'est très important pour le logement social, si vous voulez qu'il soit désirable pour les élus, pour les riverains, pour les habitants. Il faut qu'ils soient mixtes.
On a l'impression que c'est à chaque fois qu'on parle des solutions et des contextes qui marchent, on ne peut pas faire sans le logement social. On a beau essayer de voir toutes les manières d'améliorer le marché du logement et la production de logement, le logement social, ça reste quand même la solution pour Comment on explique cette forme de désamour pour le logement social, à quel point il est critiqué, à quel point le secteur du logement social est souvent remis en cause, alors que globalement ça fonctionne. David Rothman, je ne sais pas si vous avez une explication.
Alors on critique le logement social en France, mais en Europe on nous envie notre logement social. C'est ce qu'il faut se rendre compte, le logement social, c'est une superbe mécanique qui est basée sur un produit d'épargne, le livret A, qui permet de construire des logements qui sont à l'équilibre et qui, au fur et à mesure qu'ils se développent, augmente sa capacité d'autofinancement. Après, forcément, il peut être attaqué. En fait, il est aussi attaqué parce qu'il offre un contrepoint au privé. C'est-à-dire qu'il va permettre d'avoir des loyers bas pour une partie de la population. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ça me permet de revenir sur la
creuse aussi des inégalités entre les locataires, entre ceux qui bénéficient des loyers, des tarifs du parc social et les autres.
Exactement, mais ça c'est parce que
on accuse le logement social.
Et par ailleurs, 80% de la population est éligible au logement social. On pourrait même, comme c'est fait à Vienne, aller jusqu'à 100% de la population. Peut-être que ça changerait d'ailleurs le discours sur le logement social. C'est une hypothèse qui est intéressante. Pour la question sur le stock de logements, en fait, alors on a quand même pas mal de stock de logements. Ce qui manque vraiment, c'est un flux de logements pour adapter le logement là où il y a de la demande.
Qu'est-ce que c'est la différence entre un stock de logements et un flux de logements?
En fait, il y a 38 millions de logements existants en France. Par contre, il faut des logements nouveaux pour des villes qui croisent, pour des gens qui bougent. Voilà, on n'est pas dans un système statique. Mais ces logements nouveaux sont pas forcément des logements neufs. C'est alors, ça dont il faut se rendre compte.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Le logement neuf, c'est un logement qui est construit nouvellement. Les logements neufs, il y en a, on vise 500 000 par an, on les atteint jamais, on est plutôt à 300 000 par an. Ça se répartit en un tiers promoteur, un tiers particulier et un tiers bailleur social. À peu près, ça varie selon les années. Mais ça, cette production-là, c'est qu'une minorité de la production de logements nouveaux. Les logements nouveaux, c'est la majorité de la production, ça dépend évidemment des villes. Dans les logements nouveaux, c'est par exemple quand on transforme une résidence secondaire en résidence principale, c'est un logement nouveau. Quand on divise un appartement grand en deux appartements, c'est des logements nouveaux. Quand on va transformer un bureau ou des commerces ou des locaux d'activité en logement, c'est un logement nouveau. Il y a une étude de l'Idéal qui montre qu'à Marseille, c'est la majorité de la production, alors qu'il y a beaucoup de production neuve. On a beaucoup la majorité de logements nouveaux. Donc si on veut une politique vraiment efficiente, il faut prendre en compte l'ensemble des leviers. Si on prend ça, les promoteurs, ça représente 10 à 15% du logement nouveau. Donc on peut pas être uniquement sur cette partie-là. Et il faut soutenir du coup les modes de production qui ne sont pas dépendants d'une hausse du prix de l'immobilier.
Et alors, dans ces logements nouveaux, vous avez cité toutes les manières de créer de nouveaux logements sans construire. Il y a aussi la mobilisation des logements vides. Il y a 3 millions de logements vides en France, je crois, selon l'INSEE. Pourtant, on entend souvent dire que, alors c'est bien les logements vides, et ça paraîtrait être du bon sens de dire plusieurs centaines de milliers de personnes à la rue versus des millions de logements vides. La solution doit être là, juste en les faisant se rencontrer. Mais les logements vides ne sont pas situés dans les endroits avec des fortes demandes de logements. Vous revenez là-dessus dans votre livre, et je crois pour battre en brèche cette idée, est-ce que vous pouvez y revenir?
Oui, je m'appuie sur une autre étude de l'Idéal.
L'Idéal, l'Institut pour les hautes études, des hautes études pour l'action dans le logement.
Exactement, qui est un think tank très intéressant.
Piloté par Catherine Saba.
Exactement. Que nous saluons.
Que je salue également. Donc dans cette étude, en fait, ils ont fait un travail à partir des données du Bon Coin. C'est la première fois qu'ils ont eu ces données. Et en gros, ils mesurent la tension sur un marché par rapport au nombre de demandes qu'il y a sur une offre immobilière. Donc c'est la première fois qu'on mesure vraiment la tension sur le marché et pas uniquement l'offre qui rencontre la demande. Et ce qu'ils font comme hypothèse, c'est qu'il y a 8% de logements vacants en France. Si on passe de 8 à 7%, là où vont être, et on prend là où ils sont situés, on va avoir un impact plus fort sur la réduction de la tension sur le marché immobilier. Ça veut dire que les logements vacants, ils sont mieux situés par rapport aux besoins que les logements neufs produits par les promoteurs immobiliers. Et c'est normal, les promoteurs immobiliers, ils font plus de la moitié de leur production dans 15 intercommunalités de France. Il y en a 2000. En fait, ils font que dans les endroits où ils espèrent que les prix de l'immobilier vont monter. C'est ça le problème de la spéculation. C'est pas tellement qu'on fait une plus-value, c'est qu'on anticipe une plus-value et en anticipant cette plus-value, on la crée. Parce qu'on va acheter plus cher un logement en espérant le vendre encore plus cher. Et c'est ça qui nous amène dans une spirale où aujourd'hui, et c'est ça le problème, c'est pas tellement les promoteurs ou d'autres modes de production. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à construire des logements à des prix accessibles pour le plus grand nombre.
Isabelle, comment ça se passe ailleurs pour répondre à ces questions? Parce que j'imagine que ce contexte-là, on n'est pas le seul à le vivre.
Non, on n'est pas du tout le seul. Et d'ailleurs, tous les anciens pays communistes ont bradé leurs logements et vivent...
Leurs logements sociaux
Logement communautaire, collectif, étatique. Et aujourd'hui, ils sont tous propriétaires pour la plupart. Dans les villes, parce que c'est plutôt les villes où les gens sont majoritairement locataires, il y a plus de leviers pour créer du logement abordable. Je pense, par exemple, Zurich, à 25% de logements coopératifs. Les villes Berlin, les gens sont plutôt locataires. Donc, dans ces villes de locataires, on peut effectivement agir, contrôler les loyers, etc. Quand la propriété est disséminée, c'est plus difficile d'avoir une politique du logement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Et pour réagir à ce que tu disais sur les logements vacants, en fait, je crois que c'était André Massot qui disait, même dans les villes, même dans les immeubles, il y a beaucoup de logements vacants et on voit que ça progresse. André Massot passait ça de la vacance par inadvertance, c'est-à-dire... des appartements dont les propriétaires sont décédés et les héritiers ne se mettent pas d'accord pour vendre et ça reste des années. Il y a quand même, à mon avis, un gisement au cœur des immeubles et je vous défie que dans chaque immeuble où vous habitez, il y a des logements vacants. C'est le cas chez moi d'ailleurs. Et depuis longtemps, depuis des années, parce que ça reste comme ça. Et donc, je pense qu'il y a un vrai gisement sur les logements vacants.
Moi, j'aimerais bien, David, peut-être que vous prolongiez sur ce point, parce que c'est vrai que c'est un chiffre, on fait chiffre contre chiffre, etc. Mais même à Paris, si on prend la vacance de plus de 2 ans ou de plus de 3 ans, qui est à peu près 20 000 logements, et qu'on voit la difficulté qu'il y a à sortir 5 ou 6 000 logements nouveaux par an, on voit que la vacance est un gisement énorme. Et d'ailleurs, les variations de population à Paris sont, depuis 40 ans, intimement lié à la variation de la vacance. Les deux courbes sont exactement symétriques. Donc ça n'est pas lié à la construction neuve ou à la mise sur le marché de logements neufs. C'est lié en fait à ce que la masse, ce que vous disiez tous les deux, que le stock en fait remet sur le marché ou la dynamique du stock. J'aimerais bien, David, que vous n'êtes pas allé au bout sur la question de la vacance, sur, alors ce sera peut-être aussi dans une troisième partie, sur les propositions qu'on pourrait être amené à faire. Mais... votre étude du Bon Coin, elle est très intéressante. Elle démystifie un peu le sujet. L'État commence à se préoccuper, essaie de trouver des leviers, en particulier par des actes notariaux, pour accélérer la remise sur le marché de logements suite à des décès. On a aussi, je voudrais juste pour nos auditeurs expliquer la différence entre l'augmentation d'une population qui n'augmente pas beaucoup en France, mais l'augmentation du nombre de ménages qui augmente beaucoup. Et la question du besoin du logement, c'est lié à la présence du nombre de ménages. Et un ménage dans une population qui aujourd'hui représente 4 générations qui peuvent cohabiter dans le même espace territorial, ça veut dire que là où il y avait besoin d'un seul appartement, avec papa, maman, 2 enfants, ben on rapidement peut arriver à 4 appartements. Et puis si les grands-parents et les petits-enfants, ben tout ça, les grands-parents vivent plus longtemps, donc on peut arriver à 6 appartements, etc., etc. Et c'est ça qui crée la tension sur le marché du logement aujourd'hui. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je pense que c'est important pour les auditeurs de bien comprendre cette petite nuance sur le marché du logement.
Oui, bien sûr. Et sur les besoins en logement, quand on dit qu'il faut 300, 400, 500 000 besoins, ce n'est pas parce qu'on a 300, 500 000 personnes. En plus, c'est beaucoup lié à la décohabitation, à des ménages plus petits. Et c'est là où je dis que, oui, c'est important d'avoir un flux. Et d'ailleurs, sur la vacance, en fait, il y a un flux important de réduction de la vacance. Il est plus important que la construction neuve par les promoteurs.
Un flux de réduction de la vacance.
C'est-à-dire des logements qui avant étaient vacants, qui deviennent des résidences principales. C'est un flux qui est massif. Par contre, on a aussi le flux inverse, c'est-à-dire des résidences principales qui deviennent de la vacance. Et les deux s'équilibrent quasiment.
Des résidences secondaires entre les deux.
Ou des résidences secondaires, les deux s'équilibrent. Donc on a, en fait, souvent on dit, quand on dit qu'il faut réduire la vacance, on dit mais c'est compliqué, on ne va pas aller en plein centre-ville de Guéret, dans des appartements qui sont trop durs à rénover, on ne peut pas le faire. Oui, c'est vrai, il y a une partie de la vacance qui va être très difficile de mobiliser. Mais on peut travailler sur les deux flux. On peut travailler sur le flux vacances-résidence principale, on peut aussi travailler sur le flux résidence principale vers vacances. Ce qui se passe à Paris, c'est comme Paris est devenu un coffre-port pour les ultra-riches, en fait, ces personnes-là peuvent se permettre de la vacance. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas. En plus, les prix immobiliers augmentent. Donc, à la limite, c'est un bon investissement. Il y a une rationalité derrière de le laisser vacant. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est d'un côté comment on amène de la vacance vers la résidence principale. Mais peut-être là où l'action publique serait encore plus efficiente, c'est d'éviter que des résidences principales deviennent de la vacance. Parce qu'un bien qui ensuite a été vacant pendant 20 ans, forcément, il va être dégradé. Ça va être, il va avoir dégradé le quartier. Donc, ça va être plus difficile de remettre à usage de logements.
Oui, tout à fait. Donc, d'où les taxes sur le logement vacant. Il y a aussi le phénomène de résidentialisation secondaire, de piétatérisation, je dirais, qui est très fort à Paris, où effectivement, on voit que le flux de résidences secondaires, le stock de résidences secondaires, croît plus vite que le nombre de résidences principales. Et là, il y a quand même des usages à prioriser, l'usage des occupants. Je cite parfois l'exemple à Annecy, il y a une grande ZAC sur un terrain public, l'ancien hôpital, très, très beau terrain, avec vue sur le lac, pas loin de la vieille ville. Et l'ancien maire a fait une ZAC avec plus de 600 logements.
Donc une ZAC, c'est une zone d'aménagement concertée.
Oui, plus de 600 logements, donc 120 logements sociaux, parfait. Mais tout le reste, et j'ai interrogé un propriétaire, président du conseil syndical d'une des copropriétés, tout le reste, c'est des résidences secondaires ou du logement meublé touristique. Il n'y a que 5% d'occupants permanents.
Donc c'est dramatique.
Dans ces immeubles. Et voilà un terrain bien placé, public, en fait, qui ne sert pas à la population locale. Qui fait, moi, ce qu'il me disait ce monsieur, j'habite dans un hôtel, je n'ai pas de voisin. Et pourtant, c'est moi qui m'occupe, je suis présidente du conseil syndical, c'est moi qui m'occupe de la gestion de l'immeuble.
Mais alors, je vais peut-être vous paraître naïf, mais quand on dit que il faudrait finalement limiter les résidences secondaires, quand on dit que il faudrait interdire la vacance, est-ce que tout ça c'est pas une atteinte au droit de propriété, et comment est-ce qu'on gère ça, parce que finalement on pourrait vous répondre d'accord, mais en fait cet appartement il m'appartient, et si j'ai envie de le laisser vide, pourquoi pas, comment, ou alors si je possède un appartement et que j'ai envie d'en faire ma résidence secondaire, c'est bien mon droit. Comment est-ce qu'on justifie dans une société où le droit de propriété existe, il est constitutionnel, etc. Comment est-ce qu'on justifie de réguler ce droit de propriété ?
Moi, je peux répondre. En fait, le droit de propriété, il a une raison d'être et le but n'est pas de remettre en cause ce droit de propriété. Par contre, on a une question sur l'intérêt général et la capacité de loger tout le monde. Et en fait, les différentes propriétés sont traitées d'une manière différente par l'État, notamment en termes de taxation. Et comme on parle de taxation, notamment la propriété foncière est quelque chose qui est très peu taxé. Le capital foncier est taxé à peu près 0,5%, tandis que le capital des entreprises est taxé 7%. C'est-à-dire qu'on taxe plus un capital qui est productif, celui des entreprises qui sert à créer de l'emploi, des richesses, qu'un capital improductif. Il y a des propositions d'économistes, je pense à Étienne Vasmeur par exemple, qui a écrit un livre sur le sujet, qui sont des économistes assez libéraux par ailleurs, qui disent qu'il faut énormément taxer cette propriété foncière. Parce que dans le prix de l'immobilier, 20 à 50% du prix de l'immobilier, c'est le foncier. Le foncier, en 45, ça valait une année de PIB, c'est-à-dire que tout le stock de foncier valait une année de PIB. Aujourd'hui, il vaut 6 années de PIB. La France, de 2000 à 2022, elle est devenue deux fois plus riche. Elle a plus 4 années de PIB, elle a 8 années de PIB en richesse. C'est intégralement expliqué par le foncier. Oui, c'est là qu'on a une distorsion
une
en fait,
un peu
de marché. C'est là qu'on a une distorsion de marché. Et c'est là où, en fait, on taxe au mauvais endroit. On taxe capital, on taxe travail. Il faudrait taxer ce foncier. Ça permettrait de mettre plus de circulation dans le foncier. Et ça éviterait ce phénomène où, en fait, c'est pertinent, c'est rationnel de garder du foncier et de spéculer sur sa hausse.
Alors désolé, mais je connais quand même aussi les contre-arguments, ceux notamment des promoteurs immobiliers, qui disent, d'accord, mais la taxation des revenus fonciers, par contre, elle est très très importante, beaucoup plus importante que celle des revenus sur les actions, par exemple. Et donc, d'après les promoteurs, ça empêche et ça décourage les gens d'investir dans l'immobilier ou même de mettre leur logement en location plutôt que de le laisser vide.
Ça décourage le marché locatif.
Ça décourage le...
Dont on n'a pas encore beaucoup parlé.
Exactement. Est-ce que c'est pas un contre-argument ?
C'est exactement le débat qu'on a actuellement sur le statut du bailleur privé. Qu'est-ce que c'est ?
Vous pouvez rappeler...
Le statut du bailleur privé, c'est un débat actuellement en cours à l'Assemblée nationale qui est en fait un outil de défiscalisation. C'est-à-dire, j'achète un logement, si je le loue à certaines conditions, j'arrive à en défalquer une partie de mon impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça veut dire que ça devient plus rentable pour un acteur d'investir pour louer. Mais ça devient plus rentable pourquoi ? Parce que on va faire la défiscalisation, parce qu'on va payer moins d'impôts. Et ça, en fait, ça fait que les investisseurs vont pouvoir acheter plus cher les logements. Donc, on retombe dans cette spirale qui augmente les prix de l'immobilier.
Oui, sur les revenus fonciers qui sont plus taxés. Oui, théoriquement, oui. Dans les faits, non. Parce que justement, il y a des techniques d'optimisation fiscale, notamment de déficit foncier, qui fait que vous payez quasiment pas d'impôts sur les revenus fonciers. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que vous investissez dans l'immobilier, c'est rentable à partir du moment où vous faites du déficit. Sur le droit de propriété, effectivement, aujourd'hui, dans la bataille notamment de la régulation des meublés touristiques, il y a une vraie bataille judiciaire qui est en cours. J'ai vu que même la petite ville d'Aubernay en Alsace avait vu son règlement pour limiter les locations touristiques de courte durée annulé par la cour d'appel administrative. Au nom du droit de la propriété et de la disproportion des règles par rapport au droit de la propriété, c'est l'argument de la cour d'appel de Nancy. Mais en fait, ce qu'a dit David, c'est ça. Le droit de propriété, ça fait longtemps qu'il est quand même encadré. Tout le droit de la construction, tout le droit de l'urbanisme sont des atteintes au droit absolu de la propriété. Mais la Constitution, la Déclaration de l'Homme, dit que c'est un droit absolu, sauf en cas d'utilité publique légalement constatée et moyennant une préalable et juste indemnité.
Donc, c'est un des aspects de ce droit de propriété qu'on oublie souvent.
Donc, effectivement, au nom de l'intérêt général et la Cour de justice européenne a reconnu que le logement permanent était un sujet d'intérêt général, la préservation du logement permanent était un sujet d'intérêt général. Donc, au nom de l'intérêt général, on peut, ou par la bien-taxation, ou par le biais de limitation, privilégier les usages d'habitat permanent par rapport aux meublés touristiques, aux résidences secondaires.
On va marquer une deuxième pause musicale et je vous propose de tous déménager à Berlin en écoutant Everyone is Moving to Berlin de Laili Arad.
Ich bin ein Berliner.
Again, check how much of you I dreamt up in my head. I can't remember what's a memory and what I invented. I know you're busy. Can you fit me in? It's gotta be tonight. 'Cause everyone is moving to Berlin. I've discovered it's the bloggers who can kiss. Person who asks for a lot of your soul polite, it's doing me up, I'm all hung up on you. Don't recognize myself, but you never shut up, so I hang up on you. Wish you were someone else when we were hanging out. I was hanging in, but I've had enough. I'm gonna hang my washing in Berlin. The wine is spilled, the bread is burnt, the damage done.
Retour sur le plateau de Cause Commune, vous êtes dans Ainsi va la ville. Nous sommes avec David Rothman, Isabelle Ray-Lefèvre, toujours en compagnie de Dominique Alba.
Oui, alors nous avions terminé sur cette notion d'intérêt général, du droit de propriété, des différents droits. Peut-être que pour aller un peu plus loin, puisque nous sommes dans la dernière partie de l'émission et que là, il s'agirait de donner des conseils ou d'aller dans des propositions vis-à-vis des édiles et puis des citoyens, parce que c'est un sujet très très complexe, hein, qui touche vraiment à chacun le cœur de nos vies. Le logement est la mère, je dirais, de toutes les batailles, pour citer Catherine Sabat. Qu'est-ce qu'on fait avec le droit de l'environnement, par exemple? Qu'est-ce qui fait que, en fait, pour faire face à cette disparition, c'est comme si on avait un grand trou noir dans le logement, il y a celui où on habite, et puis il y a tout un tas de logements, on ne sait plus trop à quoi ils servent. Ils servent sans doute à faire de la spéculation, mais pas tous. Donc peut-être l'un et l'autre, peut-être David, puis après Isabelle, avec l'exemple de Rennes. Vous avez tout ce sujet des coopératives qui est le logement coopératif, qui n'est pas la même chose que les coopératives. David.
Mais par rapport à l'environnement, en fait, on est sur une planète finie. L'enjeu, c'est de couvrir notre besoin avec le moins d'empreintes matérielles. Là-dessus, on est tous d'accord. Ce qui fait que, si on suit le raisonnement, globalement, on arrive, si on utilise moins d'empreintes matérielles, c'est moins d'énergie, c'est moins de matériaux, c'est moins de PIB. Mais ça ne veut pas dire moins de bien-être et moins d'utilité. Moi, je pense que dans cette transition, et le logement est un très bon exemple, on peut avoir le progrès des 99% avec peut-être des sacrifices, mais qui sont tout à fait justifiables, avec nos grands principes, des 1%. Pour autant, et donc ça veut dire sur le fait de mieux utiliser le stock existant, de moins reposer sur la construction neuve. On a des scénarios de l'ADEME hein, qui disent qu'il faut réduire fortement la construction neuve et plus mobiliser ce qui est existant ou les flux dont je parlais tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin forcément d'être d'accord sur l'ensemble, on n'a pas besoin d'être décroissant pour vouloir mieux partager le logement. En fait, le logement, c'est un sujet vraiment transpartisan. Il faut que toutes les personnes le comprennent, il va falloir avoir des consensus et des compromis de longue durée. Et tout le monde a intérêt à qu'on puisse facilement se loger. Aujourd'hui, les maires, en fait, ils ont leurs administrés qui viennent les voir, qui disent « mes enfants ne peuvent pas se loger dans la commune ». On le voit d'ailleurs, le débat est beaucoup autour du logement étudiant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont majoritairement des enfants de couches aisées, et donc ces couches aisées commencent à se plaindre du fait que leurs étudiants ne trouvent plus à se loger. Donc en fait, de la droite à la gauche, tout le monde a intérêt à trouver une solution pour rendre l'immobilier moins cher. Et le problème, c'est qu'on va sur des solutions qui rendent l'immobilier plus cher. Et en fait, le logement social est une solution qui a un effet stabilisateur sur les prix. Le logement coopératif, qu'Isabelle décrit très bien dans son livre, et on a envie de vivre à Vienne quand on lit son livre, le logement coopératif est une très bonne solution. Et en fait, on est passé, pour nos dépenses de consommation, on payait 20% de notre dépense en logement. On en paye aujourd'hui 30% pour des logements plus petits. On a perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. C'est les notaires qui disent ça. Et donc, en fait, on a, et c'est là où quelque part il y a une trahison du capitalisme. Mona Chollet le dit, je pense. Elle dit, c'est la plus grande trahison du capitalisme, l'inaccessibilité au logement. Tous les autres biens sont plus faciles à accéder et le logement, car il sert à la spéculation, car il sert de coffre-fort. Pour ce cas, il est devenu moins accessible.
Sur le droit de l'environnement, effectivement, il prend de plus en plus de place dans notre droit du logement, si j'ose dire. Comme disait David, nos ressources, on se rend compte que nos ressources ne sont pas inépuisables, que ce soit l'énergie, l'eau, très important, l'eau, et le sol. Donc à partir de ce moment-là, il faut se mettre autour d'une table et dire quels usages on privilégie pour que tout le monde ait accès à l'eau. Je vais prendre l'exemple du pays de Fayence dans le Var. C'est un pays dans l'arrière-pays de Nice, de 9 communes, je crois. Ils ne peuvent plus délivrer un permis de construire pendant 5 ans parce qu'ils n'ont plus d'eau. Mais vraiment, ils sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau. Et il y a quand même un promoteur qui a trouvé le moyen d'attaquer le maire d'une des communes en disant que qu'il avait refusé son permis de construire, en disant qu'il était dans les clous du plan local d'urbanisme et que donc il devait lui délivrer son permis de construire. Le juge a dit, non, la ressource en eau, c'est quand même un refus légitime, un motif légitime du refus du permis. Et dans une de ces communes, je crois que c'est Saillant, il y a 4000 habitants et 1022 piscines. C'est un peu ridicule, quoi. Donc, effectivement, il y a quand même des solutions collectives à mettre en œuvre pour que tout le monde ait accès à l'eau, au sol et à un habitat de qualité. Toutes les solutions que moi j'appelle anti-spéculatives, qui permettent de garder du logement abordable au fil des ans, sont bonnes à prendre, que ce soit le logement social, très important, que ce soit du logement coopératif, que ce soit des montages comme les organismes fonciers solidaires et les baux réels solidaires, qui sont inspirés du Community Land Trust américain.
Donc, en deux mots, ces montages, pour rappeler aux auditeurs, on en a souvent parlé sur ce plateau, mais...
Alors, le Community Land Trust, d'ailleurs Bernie Sanders, le socialiste américain, enfin maintenant je crois qu'ils sont trois, c'est de mettre le sol entre les mains publiques, entre les mains d'un organisme non lucratif et qui restera le bien commun ad vitam aeternam. Et on vend simplement l'appartement, la construction, qu'on pourra revendre. Alors, dans les Community Land Trust américains, on peut le revendre avec une fraction de la plus-value. Il y a une espèce de partage de la plus-value entre le Community Land, le propriétaire du terrain, et l'acquéreur. En France, on a adapté cette solution du Community Land Trust en organisme foncier solidaire et bail réel solidaire. En fait, les gens sont locataires, mais ils louent le terrain sur une longue durée et ils ne peuvent revendre, si j'ose dire, leur droit d'usage qu'à un prix contrôlé, qui est le prix initial majoré de l'inflation.
Et à chaque fois, j'ai l'impression que dans toutes ces solutions, c'est un rapport un peu déprécié à la propriété qui se met en œuvre.
C'est une autre forme de propriété, c'est un statut un peu hybride entre la location et la propriété, mais les gens peuvent transmettre, peuvent faire des travaux, ils ont quand même plus de droits que des locataires, ils sont là autant le temps qu'ils souhaitent, ça c'est quand même très important parce que le logement social, non seulement il apporte des loyers modérés, mais il apporte la non-précarité, la certitude, la sécurité. Et ça, si vous voulez, c'est très important dans la vie. Moi, je suis contre tout ce qui précarise les gens. Le logement social à vie, c'est fini. Ben non, justement, c'est l'intérêt de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir sécuriser sa famille. Donc, ces formules, elles sont un peu hybrides entre le droit de propriété et le droit des locataires. Et je pense qu'un certain nombre de gens sont tout à fait... adhèrent complètement à cette idée de ne pas participer à la spéculation, à cette idée. Et puis, ils ont des logements qui sont 20, 30, 50% moins chers que le privé. D'une certaine manière, la plus-value, ils l'ont d'entrée. Ils ne l'auront pas à la sortie.
Peut-être pour compléter, en fait, sur la propriété, je pense que le consensus est en train de changer. La promesse initiale de la propriété pleine et entière, elle ne tient plus. C'est-à-dire que de 45 à 2000, on a augmenté le taux de propriétaires d'une manière faramineuse. Ça a permis l'émergence et la stabilisation d'une classe moyenne. C'était une politique qui a fonctionné, mais elle ne fonctionne plus pour plusieurs raisons. Cette promesse, elle tient plus parce que, déjà, moi je pense qu'on est arrivé à un plafond des prix de l'immobilier. Donc l'enrichissement, aujourd'hui, il ne pourra plus se faire. Vous achetez votre pavillon, vous n'allez pas le revendre plus cher. Deuxièmement, la sécurité du capital, vous investissiez là-dedans parce que vous disiez, ben, mon capital, il va être sûr là-dedans. Quand on voit des enjeux de retrait, gonflement des argiles qui font qu'il y a plein de maisons qui sont menacées d'écroulement, quand on voit les reculs de traits de côte, en fait, cette sécurité de ma maison, hein, parce que la majorité des propriétaires, ces propriétés de maisons, la majorité des logements sont des maisons, elles n'existent plus. En fait, on a voulu faire porter trop d'objectifs à cette propriété du logement. On a voulu permettre aux classes moyennes de s'enrichir, on a voulu financer les finances publiques avec les droits de mutation, on a voulu relancer le BTP à plusieurs moments pour créer de l'emploi, et on a voulu se loger. Aujourd'hui, je crois, et je reviens à ce que dit Isabelle, les gens souhaitent d'abord le droit d'usage de leur logement. Ce qu'ils veulent, c'est sa valeur d'usage. Et ils sont prêts à renoncer à la valeur d'actif, donc à la spéculation, s'ils ont le droit à un logement confortable, bien situé. J'ai, par exemple, une proposition que je porte vraiment de politique publique précise sur la rénovation. Aujourd'hui, il faut massivement rénover, c'est complexe, les promoteurs n'y arrivent pas parce que les opérations ne sont pas assez grandes et trop complexes pour la manière dont c'est structuré.
C'est la rénovation thermique.
La rénovation thermique. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai travaillé à Roubaix sur des maisons ouvrières, il y a beaucoup de propriétaires occupants qui sont des gens pauvres, qui habitent dans les logements mal isolés et qui ne savent pas les rénover. L'État donne des subventions, mais ces subventions, elles sont soit trop faibles pour vraiment pour aider ces propriétaires-là, soit elles sont tellement fortes qu'elles coûtent trop cher et qu'il y a des effets d'aubaine massifs. Ces propriétaires, je suis certain qu'ils seraient d'accord pour que l'État rachète leur foncier, qu'avec ce prix du foncier, ils peuvent rénover leur logement et qu'ensuite, ils louent le foncier. Ça aurait plusieurs effets positifs, déjà la rénovation sur l'impact de la transition énergétique, et ça aurait aussi l'effet que le sol deviendrait propriété publique. Quand on maîtrise le sol, on peut tout à fait après limiter la plus-value sur l'immobilier. C'est ce que permet le BRS. Et en fait, maîtriser le sol, c'est l'alpha et l'oméga d'une politique de long terme du logement.
Merci, il nous reste une minute pour conclure. Je pense que les prochains que nous devrions solliciter, ce sont les notaires, parce que c'est peut-être eux qui pourraient acculturer l'ensemble des personnes au regard de ces questions de logement. Peut-être Isabelle, le mot de la fin, puisqu'on se demandait ce rapport collectif et individuel à la propriété, dont David a glissé, a esquissé quelques lignes, qu'est-ce qu'un maire, demain, peut dire à ses administrés pour retrouver de la souplesse dans le parc de logement?
C'est vrai qu'aujourd'hui, la France s'immobilise. Hein. On voit le taux de déménagement baisser. C'est quand même un problème. Le maire, il doit protéger le logement permanent et le mettre à l'abri de la spéculation. Il peut privilégier la résidence principale secondaire dans les PLU. Il a quand même quelques moyens, mais aujourd'hui, on touche un peu les limites de la compétence du maire et on parle d'une décentralisation de la politique du logement et je suis assez favorable à cette idée.
Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Ce numéro a été réalisé avec le soutien de Grand Paris Aménagement. Merci à vous, Isabelle Ray-Lefebvre et David Rothman, d'être venus nous parler de votre rapport à la ville. Merci à Plateau Urbain et au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. Et à bientôt à toutes et à tous pour un nouvel épisode d'Ainsi va la ville sur Cause Commune 93.1 FM.